Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bernard Laporte, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme beaucoup d'experts de votre âge, vous avez un CV qui est long comme le bras. Vous avez été ingénieur, puis urbaniste. Vous avez travaillé au PLU de votre commune. Vous avez participé au SCOT de Montauban. Et aujourd'hui, vous participez au collectif Ceinture Verte de Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, dont vous allez nous parler parce que je le présente très mal, avec un indéniable savoir-faire. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui. Car le PLUI de Montpellier vient d'entrer en débat public. Alors, il avait été lancé en 2015, il y a 10 ans, mais il a fallu 5 ans pour se mettre en route. Enfin, disons que ça fait 5 ans qu'on y travaille. Alors, 2 questions pour commencer. Qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme? Ça, c'est pour que nos auditeurs fassent un peu le point. Et puis, pour Montpellier, qu'est-ce que c'est qu'un PLUI? C'est-à-dire, on est dans une intercommunalité. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on sait que l'intercommunalité de Montpellier, c'est ce qu'on appelle la métropole. C'est 31 communes, c'est ça, c'est 31 communes. Et c'est environ 500 000 habitants, c'est énorme. C'est la 8e ville de France. Donc, c'est important, cette phase.
Oui, donc le PLUI, le I était pour l'intercommunalité, donc les 31 communes. Donc, c'est quand même un vaste travail de prévision, d'aménagement du territoire et avec un horizon qu'on espère le plus long possible. Et normalement, un tel PLUI ne sera pas à réviser avant 2040, certainement. 15 ans, c'est long, mais c'est aussi court dans la période où on vit de transformation assez rapide, surtout dans notre ville. Donc le PLUI, c'est vraiment un plan d'aménagement du territoire sur le long terme, si possible, avoir une vision anticipatrice même au-delà. Quand on fait des routes, on les fait pour 50 ans ou plus. Et c'est véritablement un schéma directeur de toute l'organisation. Et ça va même plus loin parce que le PLUI définit pratiquement à la parcelle la façon de construire, les hauteurs, etc. Donc, il y a un document d'aménagement durable, c'est les intentions. Et puis derrière, il y a tout ce qui s'appelle le zonage, les emplacements réservés, les périmètres agricoles, s'il en est, etc. Donc, il y a tout un travail de fond à la parcelle pour définir ce qu'il est possible de faire ou ne pas le...
D'abord, on va écouter ce qu'en dit sur le même sujet Michaël Delafosse.
Je voudrais venir ici sur un mot que vous avez employé, monsieur le vice-président, équilibre. Un document de cette nature est forcément un compromis. On s'y retrouve, ou pas du tout. Mais moi, je veux saluer tous les efforts qui ont été faits par les uns et les autres pour faire intercommunalité. Équilibre et exigence. Je voudrais y joindre ce mot. Exigence pour notre territoire. Notre Languedoc, quand nous le parcourons en train, parfois ou sur la route qui nous mène vers Toulouse, on voit cet étalement urbain, cet urbanisme de lotisseur qui a défiguré les paysages. À travers ce document, nous posons un premier acte d'une stratégie indispensable pour l'avenir, la réduction de l'artificialisation des sols, comme trajectoire, et Madame Touzard l'a très bien expliqué. De 1500 hectares ouverts à l'urbanisation, nous réduisons de plus de la moitié. Et donc nous consacrons que la métropole de Montpellier, 131 communes, ce sera 2/3 d'espaces naturels et agricoles, et 1/3 consacré à l'urbanisation, logement, espaces publics, équipement public, activité économique. Un tiers, deux tiers. C'est un choix extrêmement fort et j'invite à ceux qui le contestent à regarder ailleurs si on peut offrir aux habitants un tel ratio. Car ce PLUI, il structure et il protège nos grands paysages, ceux que de l'esplanade royale du Pérou, nous pouvons contempler vers le pic Saint-Loup. Il protège ceux que l'on peut voir de Villeneuve-lès-Maguelone vers Montpellier, de ceux qu'on peut apprécier quand nous étions hier sous la pluie à l'inauguration des digues. Il protège et il se structure autour du grand paysage. Un paysage d'ailleurs, naturel et agricole. J'ai entendu le débat sur la souveraineté agricole. Il est nécessaire, mais aujourd'hui, nous avons tant d'espaces à vocation agricole qui sont encore en jachère et sur lesquels nous devons travailler pour implanter des agriculteurs. Vous l'avez dit en introduction, ce sera les ZAFA. Exigence. Exigence pour tenir le grand équilibre spatial. Deux tiers, un tiers. Et je veux ici saluer, parce que ça a été long, tous les efforts de compréhension sur chaque commune pour réduire l'artificialisation, pour réduire les zones urbanisées, pour réinterroger les projets. Je me souviens de discussions avec des maires qui me disaient « Mais t'es fou, on peut pas, là on est engagé déjà ». Oui, mais il faut bouger. Et tout le monde, par le dialogue, a fait ce travail.
Alors, vous venez d'entendre Michaël Delafosse. C'est vrai que l'exercice était quand même compliqué. Montpellier devient une ville attractive. Elle devient la 8e ville de France et on sait qu'il faut caser du monde. Bon, on a en même temps des lois qui ont mis effectivement un peu en garde contre le fait de construire n'importe où. Donc, Michaël Delafosse dit qu'il a réussi à mettre en place un consensus, que ça n'a pas été simple. Il oppose son urbanisme de projet à l'urbanisme des promoteurs, c'est-à-dire en gros, il est en train de nous dire qu'on ne construit plus n'importe où, n'importe comment. Alors, vous avez, vous, une connaissance précise des lieux, et est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui vient de nous être dit ?
Ben, notre président a insisté lourdement sur la préservation des terres agricoles.
C'est... Quand vous dites notre président, vous dites Monsieur le président de collectif ou...
Vous
parlez de Michaël Delafosse, d'accord, de la, du maire. Hein, okay.
Et sur ce thème, je pense qu'on a perdu du temps et que ce discours qu'il a prononcé... il y a 6 ans, on prononçait pratiquement le même. Et qu'en 6 ans, on peut difficilement faire une mesure précise des progrès qui ont été faits sur ce thème. Les initiatives qui sont actuellement actives sont par exemple le domaine de Mirabeau à Fabrègues, qui n'est pas une initiative métropole. Et le CIS qui est métropole, c'est le je ne me souviens plus son nom, mais
enfin, peu importe.
Oui, peu importe, oui. Il y a des choses qui se font, mais ce n'est pas spectaculaire et ce n'est pas à la hauteur des déclarations et des enjeux. Voilà, c'est clair. Alors, est-ce que c'est des questions de budget ? Parce que peut-être qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour soutenir le foot ou les sports que de faire de l'agriculture urbaine et périurbaine.
Alors, où est-ce que vous trouvez que, justement, on ne respecte pas assez ce projet d'agriculture urbaine ?
Bah, parce que c'est compliqué. Il faut mobiliser des terres. Et ça ne se fait pas sur un coup de baguette. Ce qui fait que ce n'est pas très enthousiasmant pour des élus de prendre des initiatives lourdes sur une échelle de 20 ans à l'avance. Et c'est des projets qui demandent une maturation très longue. Et alors, le projet création d'AFA, Association Foncière Agricole, je suis d'accord, mais je pense qu'il faudrait précéder ces formations d'associations agricoles par des périmètres de préservation de ces terres.
Mais alors elles ont quel pouvoir, ces associations ?
En gros, c'est un certain nombre de propriétaires fonciers de terres agricoles, les mettre en collectivité, sous forme d'une association, et cette association délègue des personnes pour les mettre en valeur, les exploiter, les aménager, les irriguer, etc.
Ça, alors, vous parlez du finalement, enfin, de ce fameux projet de mise en œuvre, enfin, de mettre en culture les friches.
Voilà, il y a énormément de friches qui, même les friches prospèrent, parce que les gens ont pris l'habitude par le passé d'attendre que ça devienne urbanisable et il y a un morcellement.
Et forcément, ils le vendraient plus cher.
Ils le vendraient 10 fois plus cher, donc, ou plus. Donc, mais bon,
y a une, donc ça, ils attendent.
Il y a un coup de rabot par les impôts quand même, au passage. donc, ça a été un petit peu la façon d'urbaniser jusqu'à récemment encore. Les gens avaient toujours dit, de toute façon, on peut faire un périmètre et puis la ville s'arrêtera là. Mais dans la pratique, on toujours des extensions. Il y avait toujours de bonnes raisons. Et puis, c'était tellement plus pratique pour les investisseurs de bâtir sur des surfaces agricoles qui sont quand même bien planes, qui coûtent pas cher. Ou qui coûte moins cher, et donc ça entraînait une urbanisation extensive le plus facilement possible.
C'est comme ça qu'on a finalement étendu Sabine, Saint-Jean-de-Védas, tout l'ouest de Montpellier.
Oui, c'est un petit peu le cas de toutes les communes périphériques, hein, et même dans le pays lui actuel, il y a encore des petits machins, pratiquement. Sur les 31 communes, il y a 35 communes qui ont un petit périmètre d'extension.
Alors bon. À ce micro, Clara Hart, il y a peu de temps, disait finalement on a compris qu'on ne devait plus aller, comme l'avait indiqué Frèche à son époque, vers la mer, hein, et qu'on allait de plus en plus vers l'ouest. Est-ce que vous constatez ça dans le nouveau plan d'urbanisme ?
Ben, il y a des facteurs d'attractivité pour l'implantation d'extensions urbaines. C'est les axes routiers, hein, c'est manifeste. C'est pas, et ça, c'est, on a quand même, depuis 50 ans, développé la voiture à l'extrême. La voiture a conquis les villes. Et on a aménager les villes pour accueillir des voitures au risque de réduire les trottoirs, l'espace public. Et donc et maintenant, il faut essayer de revenir en arrière et développer les transports collectifs dans les parties urbaines du territoire. C'est une évidence, mais ça coûte très cher de revenir sur cet aménagement qui privilégiait entièrement la place de la voiture en ville.
Et alors, aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que on essaie de réduire un habitat pavillonnaire trop extensif, etc.
La France est, en Europe, le pays où l'étalement urbain est le plus élevé. Loin devant l'Allemagne, ensuite l'Angleterre, l'Italie. On s'aligne un petit peu sur les États-Unis,
où il y a de la place.
Où il y a de la place, il y a beaucoup plus de place qu'en France. Et aux États-Unis, moi j'y ai vécu, donc je peux en parler savamment, c'est qu'il y a des espaces de liberté immenses. Donc on peut se rattraper un petit peu, on peut s'échapper de la ville facilement et être libre, sans clôture. Il n'y a pas de clôture. Même en ville, aux États-Unis, les zones pavillonnaires sont rarement clôturées.
Oui, c'est vrai. Donc, en France, est-ce qu'aujourd'hui, on voit stopper ? Est-ce que ça se stoppe un peu ? En fait, c'est ce que dit en tout cas le maire de Montpellier, et puis d'autres maires d'ailleurs, oui. Qui pour sauver effectivement ces espaces agricoles, vont construire davantage la ville sur la ville. Est-ce que...
Oui, c'est une nécessité. Hein. L'extension des zones urbaines consomme notre capacité de production alimentaire, de capacité sanitaire, parce que les espaces de nature et les espaces agricoles sont quand même un endroit où il y a de l'air pur. Et aussi, le contact avec la nature nous met en relation sur le plan sanitaire avec des comment on appelle ça, ça nous protège un petit peu d'allergies et de choses, parce qu'on n'a plus de contact avec la nature.
Alors, il y a des lieux que vous avez repérés, épinglés un petit peu dans le plan, dont vous voudriez nous parler peut-être.
Oui, donc effectivement, il y a des points sur lesquels il y a des débats et qui il y a des confrontations. Hein. Alors, l'un des points qui me paraît très important, c'est les infrastructures de déplacement sont dans le PLUI, ne sont pas abordées en tant que principe de base sur l'organisation des espaces de la ville. L'organisation du territoire se fait autour des routes. Maintenant, on va parler de voies ferrées ou
Il est reproché à ce PLU de ne pas tenir compte assez du contournement de la ville, de ne pas tenir compte assez des engorgements, qui est un mauvais plan.
On va parler du contournement ouest de Montpellier. On a parlé aux gens, au public, de fluidifier le trafic local. Certes, ça va peut-être le fluidifier à court terme, ça va offrir de la place sur les routes, et donc presque naturellement, les gens prendront plus la voiture qu'avant. Et les encombrements qu'on aura pu éviter au jour de l'ouverture de ce contournement, au bout de 5 ans, 10 ans, on reviendra à situation de saturation. Et ce n'est pas cela qu'on cherche. En fait, le contournement ouest, ce n'est pas un dispositif pour fluidifier le trafic. Au contraire, ça peut, avec ce qu'on appelle le trafic induit et l'urbanisation induite, parce que quand on peut rouler vite, on va loger plus loin, c'est une façon naturelle de raisonner. Mais faut voir dans ce projet un plan stratégique national pour relier la mer du Nord à la Méditerranée pour le trafic de logistique. Et il suffit de voir les projets routiers comparables autour de Rouen, de Chartres, pour gagner la 20 et la 10 à Orléans, puis ensuite par Clermont-Ferrand, Montpellier et Marseille. On fait un itinéraire de délestage de la vallée du Rhône et du contournement de l'Île-de-France. Et ça n'est expliqué dans aucun document.
Mais est-ce qu'on pourrait le faire ?
Alors, faut se méfier de la logistique. Certes, les industriels ont besoin de pièces détachées, des choses comme ça, mais ils n'ont pas attendu que les circuits logistiques se fassent à travers ces plans de plateformes logistiques. Maintenant, c'est le colis qui vient de Chine, que l'on délivre à la porte de chez soi. C'est aussi des produits qu'on va chercher plus loin, à l'autre bout de la terre, ne serait-ce que des produits agricoles, avec le Mercosur, avec qui on vient de signer des accords. Enfin, on est en train de signer des accords. Donc, ça veut dire qu'on va chercher à l'autre bout de la terre des choses qu'on pourrait faire chez nous. Et en plus de ça, ces gens qui travaillent à l'autre bout de la terre, c'est souvent de la main-d'œuvre très pressurée. C'est
pas très cher.
Pas très cher, et même à la limite de l'esclavage humain, certains cas.
Bien, donc, alors, le débat public a été lancé donc, pour le mois de février. Il fait 13 000 pages, c'est ça ?
Oh non,
non.
Je n'ai pas compté, mais rien que le règlement fait 1300 pages.
1300 pages, ouais. Donc c'est énorme.
C'est énorme, et le diable se cache dans les détails. Alors, allez chercher l'erreur. Donc, on ne va pas s'aventurer à regarder les 1300 pages. Hein,
Alors, donc on a un mois en tant que citoyen pour lire ces 1300 pages et avoir un avis.
Ah ben, Le citoyen ne va pas regarder les 1300 pages, il va regarder autour de chez lui ce qui le concerne. Bon, mais tout le monde ne va pas aller chercher, va aller consulter ces documents sur Internet. Hein. Il suffit que je parle à mon voisin pour lui parler du PLU, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?
Alors justement, comment est-ce qu'on pense sensibiliser c'est quand même tout ce qui va être dit qui va ensuite peut-être...
Faut faire confiance quand même dans nos, élus et décideurs. Il y a des choses bien. Par exemple, on commence à bâtir en hauteur, mais ce n'est pas généralisé. Et dans les communes périphériques, on y va avec beaucoup de modération. Moi, je suis de Saint-Jean-des-Védas, et pratiquement, on garde la politique actuelle. On densifie un petit peu à la parcelle, mais après la zone Roquefraisse qui s'est bâtie depuis 10 ans, on a besoin de faire une pause parce qu'on a gagné à peu près un tiers d'habitants en plus en l'espace de 10 ans.
Et... Alors, comment vous, en tant que collectif, vous imaginez pouvoir... d'abord, on voit sur le site internet du PLUI qu'il y a des QR codes et on peut donc voir accéder à la partie qui intéresse chacune de nos communes. Et on peut aussi savoir le jour où le commissaire enquêteur est là et où on peut le rencontrer. Alors, à quoi il sert ?
Bah, c'est bien d'avoir un interlocuteur qui peut éventuellement prononcer, pas un avis, mais enregistrer déjà une demande. Verbalement, c'est plus intéressant, c'est plus facile que de déposer un papier sur un site internet. La première journée d'accueil des commissaires enquêteurs dans les communes, c'était le jour de l'ouverture. Et l'accès aux documents était ce même jour. Alors, là aussi, il y a un hiatus. On aurait pu décaler au moins d'une semaine les premières consultations des commissaires enquêteurs. Et puis, le dernier jour, c'est toujours le 28. C'est le 28 qui a le plus de commissaires enquêteurs qui reçoivent. Donc, ça va être la bousculade pour avoir accès peut-être à 10 minutes d'interview avec cette personne.
Alors, les avis qu'on va donner en tant que citoyen à ce moment-là sont notés par cette personne.
C'est-à-dire qu'on dépose un document où, après cette conversation, on peut déposer un avis par Internet sur le site.
Donc, et donc, c'est entre le 28 février et juillet que tout cela va être mouliné et peut-être intégré.
Oui, sauf qu'on aura peut-être gain de cause après avoir demandé une rallonge de temps. Parce que véritablement...
Justement, alors votre association travaille actuellement à ça.
On n'avait pas attendu, parce qu'on avait commencé à préparer sur des documents provisoires qui étaient disponibles jusqu'à la fin décembre. Donc on avait déjà fait l'essentiel du travail pour analyser l'ensemble du document.
D'accord.
Et mais ça, c'est une association dont le but, justement, d'essayer de voir dans quels sens on peut corriger ce PLU. Il y a des choses qui nous paraissent même à abandonner. Comme
alors lesquelles, par exemple ?
Il y a le périmètre de Malbosque. Malbosque, c'est un nouveau quartier qui s'est complété, je dirais, il y a 5 ans. Et c'est pas très loin de la Paillade. Et puis, dans ce quartier, il restait un espace ouvert de peut-être une cinquantaine d'hectares, peut-être un peu plus. Et il était prévu d'y construire 900 logements. Les riverains se sont mobilisés, ont créé une association et on a quand même mis en évidence que c'était un projet qui allait fermer quelque chose qui paraît être une pépite. C'est des espaces naturels, c'était des espaces agricoles hein, et il y a encore une parcelle de vigne qui est probablement encore en activité. Ce territoire est entouré en plus d'autres projets urbains et ils sont multipliés. Il va y avoir une densification assez forte dans
donc
ce secteur.
Donc il faut y être attentif. Hein.
Et même la masse de Gimel, là aussi qui fait l'objet d'un projet de 900 logements, c'est à la limite de Montpellier Nord, c'est un projet qui va encore urbaniser et densifier tout ce périmètre. Donc il est temps de laisser au moins cet espace ouvert, complètement naturel. Et ne pas... Il y a un projet où on parle de parc de sport.
Je pense malheureusement qu'on n'aura pas le temps, vous retrouve. Comment peut-on vous retrouver justement, est-ce que vous avez de nouvelles dates à nous donner et des lieux où on peut venir écouter en tant que citoyen vos propos ?
Ce projet Malbosque, enfin le périmètre Malbosque, fait l'objet effectivement de controverses et on peut organiser des réunions ou faire une visite des lieux pour montrer l'intérêt de protéger tout ça.
Et est-ce que vous avez des choses de prévues là, d'ici fin février ?
Sans doute, oui. J'en sais rien. Mais
oui, parce que vous participez à un gros collectif, c'est ça ?
Oui, on est 17 associations dans notre collectif. Et on commence à avoir de l'audience. On se fait savoir, nos positions, mais par exemple, un autre projet comme Sablassou, on est intervenu, c'est sur la commune de Castelnau-le-Lez. Et là, c'est un petit périmètre. Mais le petit périmètre où voudrait s'installer la clinique du parc, fait partie d'un ensemble agricole de 700 hectares. Et cette entaille qu'on ferait, c'est déjà le début de l'urbanisation d'un grand secteur qu'on pourrait protéger par un dispositif de protection des terres agricoles comme les PAEN. J'expliquerai plus tard ce que ça veut dire, mais c'est ce que nous proposons en alternative à ces brèches. Et là aussi, il y a un projet autoroutier, ce qui s'appelle l'ADEME, qui viendrait cloisonner ce territoire et être encore une possibilité d'urbaniser autour de ce nouveau boulevard autoroutier, en quelque sorte.
Bien, écoutez, Bernard Laporte, je vous remercie. Et donc, la semaine prochaine, nous accueillerons à notre antenne Guillaume Saint-Denis, qui est président du Plan Bleu pour la Méditerranée, et Denis Lacroix, qui est prospectiviste et qui a travaillé à l'élaboration de 6 scénarios pour 2050. Alors, vous retrouverez d'ailleurs l'IT que j'en ai faite dans la Gazette de Montpellier, et vous pourrez les retrouver tous les deux, mardi 18 février à 18h au Gazette Café, pour en savoir davantage. Merci à vous. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. J'aurais bien 1000 choses encore à dire, mais ça sera pour une prochaine occasion.
Merci beaucoup.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.